Salut, c'est Anouk. Bienvenue pour un nouvel épisode du Journal de bord. Ici, tu trouveras chaque semaine de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec toi l'enregistrement d'un grand monsieur dans le monde du surf qui s'appelle Gibus de Soultrey. Gibus, il a vécu les débuts du surf en France et comme c'est une personne qui est passionnée par la philosophie, l'histoire, la culture, l'écriture et bien sûr le surf, il partage et il transmet toute sa connaissance à travers des écrits et des conférences. Il est notamment le rédacteur et le directeur France du magazine Surfers Journal, auquel je te recommande évidemment vivement de t'abonner. Il y a toujours des interviews et des portraits super inspirants de surfeurs, de surfeuses, des magnifiques images, des voyages autour du surf. Vraiment super magazine auquel t'abonner. Gibus a aussi écrit un livre qui s'appelle Le Passage amoureux, qui est un petit livre de poche qui est très agréable à lire pendant les vacances près de la mer, qui parle principalement de l'incertitude. Et pareil, c'est une recommandation. Et donc moi, j'ai enregistré Gibus en podcast parce que si tu ne le savais pas, j'organise des stages et des retraites pour les femmes, donc autour du yoga, du développement personnel, et ça passe aussi par des activités comme le surf. Et donc moi, je surfe depuis que je suis petite. C'est principalement mon père qui m'a enseigné le surf parce que lui-même surfe. Et moi, j'adore accompagner les femmes à se dépasser, à apprendre à s'affirmer, à prendre confiance en elles, à l'eau. Surtout que le surf, c'est principalement dominé par des hommes. Donc ça peut vraiment être un défi pour les femmes, de s'affirmer. Et puis quand on est à l'eau, tous nos schémas intérieurs, ils sont exacerbés. On ne veut pas déranger, on a peur de tomber. Bref, il y a vraiment tous ces schémas qui sont déclenchés. Et puis plus que de juste faire un stage surf et yoga pour apprendre à surfer, pour moi c'était important d'apporter cette dimension de la culture du surf parce que le surf c'est pas juste se lever sur sa planche et faire des turns, c'est aussi une histoire, une culture, de l'art, de la poésie, de la philosophie. Et donc la première année de mon stage surf et yoga, j'avais fait moi-même un atelier sur l'histoire de surf qui était pas mal, parce que j'avais bien révisé mon sujet sur l'histoire du surf, mais c'est pas non plus ma zone de génie. Et donc Lucie Francini, qui m'accompagne dans ces stages, elle m'a dit « mais il faut absolument que tu demandes à Gibus, etc. » Donc, pour l'édition numéro 2, je me suis dit « je contacte Gibus » et me voilà donc à la terrasse d'un café pour l'enregistrer et pour lui demander tout d'abord « Gibus, l'histoire du surf ». Donc vous allez voir, ça va être sa première réponse. Et puis après, je lui demande aussi, selon lui, quels sont les enjeux d'une femme surfeuse, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui surfent. Il y a une énorme évolution dans le sport, de la place de la femme aussi. Donc voilà, j'avais envie d'avoir sa perspective, et donc ça sera réponse numéro 2. Et vous allez voir, je pense que ça peut vraiment intéresser toutes les personnes qui ont un intérêt pour le surf, que tu sois débutant ou pro surfer. Comme moi. Non, je rigole pas comme moi, mais... wannabe surfer, wannabe pro surfer. Ou que vous ne soyez pas du tout surfeur, surfeuse, mais que vous ayez envie de vous cultiver à ce sujet. Donc voilà les réponses de Gibus de Soultrey. Bonne écoute à toutes et à tous.
Je dois dire que l'année dernière, je l'ai fait toute seule, ça. Moi, j'ai essayé de présenter l'histoire du surf, mais j'étais un peu, j'avais révisé un peu mes cours, si tu veux. J'étais un peu genre, bon. Ouais. Et Lucie m'a dit, mais il faut absolument que tu fasses intervenir Gibus. Mm-hmm. Et bon, comme tu vas pas venir au Portugal avec nous, je me suis dit, tu sais quoi, je vais sortir mon micro. L'histoire du surf. Ça commence où? Et s'il y a eu des grandes dates, des grands moments, des tournants qui ont fait que le surf est arrivé aujourd'hui? C'est un peu un challenge, je suppose, pour toi, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais à la fois, c'est rentrer dans, qu'est-ce qui a été vraiment un tournant dans cette histoire-là et qui fait que le surf est arrivé aujourd'hui.
L'histoire du surf, c'est une histoire forcément longue, parce que c'est presque une histoire de plus de 2500 ans de l'humanité. Mais aujourd'hui, ça me paraît très important de bien comprendre d'où vient le surf, enfin les origines du surf. Les origines du surf, c'est une civilisation polynésienne et qui est sans doute la plus grande civilisation maritime que l'homme a connue, à part la civilisation moderne. Contextualisation, l'océan Pacifique, c'est 66 millions de kilomètres carrés. Les îles émergées du Pacifique, c'est moins de 1%. Donc c'est un peuple qui a conquis ces îles, avec en plus une navigation qui était une navigation sans instruments. Donc, il n'avait pas de repères de nord, sud, ouest, est. Ils n'avaient pas de points cardinaux, pas de repères avec l'étoile du berger. Et pourquoi c'est important de comprendre d'où on vient ? Je vais le résumer rapidement comment ils naviguaient. Mais ils ont conquis le Pacifique en ayant une conception de l'océan qui était une enveloppe d'eux-mêmes. Ils ont développé ce qu'on appelle une cosmogonie qui est un peu propre aux peuples autochtones, aux peuples indigènes, comme les aborigènes peuvent l'avoir, etc. Et eux, l'océan, c'était une enveloppe d'eux-mêmes. Alors très rapidement, ils ont migré de les Philippines, Papouasie, tout ça, Micronésie, jusqu'au centre du Pacifique, Tahiti. C'est des chapelets d'îles, d'île en île. Ils ont commencé à développer une construction des bateaux, les fameux trimarans, qui sont quand même les bateaux qui vont le plus vite. Mais surtout, quand tu réfléchis, c'est des bateaux qui avancent avec les éléments, qui ne sont pas contre les éléments. Et donc avec une technique très particulière, ils sont arrivés à construire ces esquifs qui allaient de la petite pirogue côtière au bateau de pêche et à la navigation hauturière en trimaran et à migrer. Et puis ils allaient d'île en île, sur une île ils s'installaient, puis après ça se chamaillait, etc. Ils partaient sur une autre île. Et l'île était représentative un peu de leur nombril, du nombril, donc la naissance, le cordon ombilical. Et chaque île était recouverte d'une coupole, une coupole stellaire, et on se déplaçait de coupole stellaire en coupole stellaire. Voilà. Et après, ils avaient développé, c'est ça qui est très important, petit à petit, et je m'entends les marins, ceux qui étaient les navigateurs, une technique de navigation où finalement, ils interprétaient tous les éléments en mouvance dans l'océan. Qu'est-ce que tu observes et qui est en mouvance dans l'océan ? Donc la houle, la mer, le vent, les nuages, la faune que tu croises, donc les poissons, les oiseaux. Tu croises un albatros, t'es quand même en pleine mer. Tu croises une petite frégate, t'es pas loin d'une côte. Tu as un champignon, un énorme cumulonimbus, c'est peut-être le signe d'une évaporation et donc c'est lié à une terre, ou alors t'es sur l'équateur et il y a des orages. Il y a une réfraction de la houle, ils mettaient l'oreille sur la coque pour entendre la résonance et calculer et avoir une intuition de la puissance, ils pouvaient se percevoir. Et petit à petit, en faisant ça, donc ils s'imprégnaient du paysage, ils donnaient une priorité à l'élément qui était déterminant, parce que s'il y a pas de nuages, évidemment, tu t'intéresses plutôt à la houle, inversement, s'il y a du vent, voilà. La nuit, ils avaient des repères stellaires, c'est-à-dire ils avaient des repères, des petits concepts mémotechniques pour établir des alignements d'étoiles qui leur permettaient de se guider comme ça. Et au final, ils en arrivaient à dire que c'est pas l'île, pas eux qui allaient vers une île, c'est l'île qui venait à eux. Voilà. Et c'est eux qui ont inventé le surf. Et quand tu y réfléchis, le surf, c'est la vague qui vient à toi et pas toi qui vas la chercher. C'est-à-dire que tu vas la chercher quand le matin tu te réveilles, et tu prends ta voiture, tu vas à la plage. Quand tu vas ramer jusqu'au large, c'est encore toi qui vas la chercher. Mais une fois que tu es assis sur la planche, tu la reçois, quoi. Mmh. Et donc, c'est les seuls qui ont inventé ce sport pour se mettre debout et glisser 10 secondes, 8 secondes, 15 secondes sur une vague. Voilà. Et ça s'est fait particulièrement à Hawaï, plus que sur les autres îles, puisque les autres îles, la plupart des autres îles sont des îles, c'est une île, c'est un volcan qui émerge, puis après il s'affaisse et il fait une couronne. Donc il y a la couronne du récif, et la plupart des îles polynésiennes, le récif il est au large, et la vie elle est sur l'île. Donc on développe une vie maritime autour du lagon, autour de la passe, autour de la pirogue, etc. Mais il y a très peu d'îles, il y a les Marquises et Hawaï qui sont vraiment des îles volcaniques comme ça. Il y a aussi Pâques, mais Pâques l'eau est à 12 degrés, quoi. Donc voilà. Et puis après, le surf, c'est quand même un sport de persévérance. Donc les Polynésiens qui sont arrivés à Hawaï, on peut dire que c'était des marins persévérants. Alors évidemment, cette conquête du Pacifique, elle s'est faite forcément, il y en a qui sont perdus en mer, mais c'est quand même assez fantastique. Et je termine juste ces origines du surf avec un personnage qu'il faut vraiment retenir et que dont je suis devenu l'ambassadeur, qui est Tupaya. Tout le monde connaît le capitaine Cook, personne ne connaît Tupaya. Tupaya est un navigateur polynésien qui a rencontré Cook, qui est monté à bord du bateau de Cook, qui a fait le retour du voyage avec Cook lors de son premier voyage, qui malheureusement est décédé en mer et donc Cook n'en a pas parlé. Mais cet homme a quand même conduit Cook sur toutes les îles environnantes de Tahiti en étant à bord, en n'ayant rien et en étonnant Cook de sa connaissance de l'océan. Et du coup, les adjoints de Cook, il y avait des géographes, etc., se sont intéressés à sa connaissance et lui ont demandé d'apposer sur une feuille de papier les îles qu'il connaissait du Pacifique. Et lui, c'était totalement impossible d'établir une carte, puisque d'abord, c'est une culture orale, donc tout ce qui est écrit n'a pas de sens. Et puis, lui se situe dans l'océan à partir du moment où il y est et il voit les éléments en mouvement, mais il ne peut pas de facto établir sur une feuille de papier où sont c'est son imaginaire qui se met en route. Néanmoins, il fait une carte. Évidemment, la carte, tu l'observes et c'est une carte de fou parce que comme il n'y a pas de points cardinaux, les îles sont posées n'importe où, quoi. Néanmoins, ces îles ont été répertoriées par des scientifiques aujourd'hui et ils ont pu établir que cet homme, sans rien, se situait dans le Pacifique, sur la moitié du Pacifique. Aujourd'hui, tu fais pas un pas sans mettre ton GPS pour savoir où tu vas. Donc voilà, le surf vient de cette civilisation qui a quand même établi cette connaissance maritime. Et c'est quand même un exploit, enfin, c'est une connaissance humaine invraisemblable. Donc, alors après, comment, au fil du 19e siècle, du fait de la colonisation après Cook, la pratique a disparu. Hein, Hawaï a subi, comme tous les pays autochtones, hein, l'invasion du blanc, quoi, point barre, hein, la prédation du blanc, la prédation capitalistique, la prédation messianique avec les évangélistes qui étaient là pour civiliser le sauvage, hein. Comme dans tous les pays, les indigènes observaient très très bien qu'ils se faisaient avoir. Mais le blanc, il arrivait avec le fusil, donc il tue, et avec les cris. Voilà. Bon, et qu'est-ce qu'il a fait le blanc, il a saccagé, il a évidemment exploité. Voilà. Et petit à petit, il a laminé les coutumes locales. Alors que le surf était vraiment inscrit dans la société polynésienne, surtout à Hawaï. Et puis, il a mis le sauvage à son service. Alors, les évangélistes ne pouvaient pas supporter qu'il y ait de la nudité, donc ils ont demandé aux hommes et aux femmes de s'habiller. Pour s'habiller, il fallait acheter des habits. Pour s'acheter des habits, il fallait travailler. Et après, quand tu travailles, tu n'es plus à la plage à parler. Et eux, évidemment, le blanc, ils considèrent que c'était une fainéantise. Mais en fait, quand tu es à la plage et que tu parles, tu diffuses de la connaissance puisque tu es une culture orale. Donc voilà, et donc la transmission ne se fait plus, les coutumes se perdent, et petit à petit, les traditions, les mœurs du surf, de la danse, du hula, tout ça disparaissent. Voilà. Et donc on arrive à la fin du 19e siècle avec une population qui au départ était de 500 000 et n'est plus de 50 000, évidemment ravagée par les maladies que les blancs ont apportées. Et donc là, on a la chance d'une renaissance. Et la Renaissance, elle se fait grâce, c'est assez anecdotique, mais c'est assez, assez fort. Il y a un homme qui s'appelle Alexander Humford, qui est un Américain, qui a une quarantaine d'années, boire-roudeur, journaliste, aventurier, etc. Il vient du centre des États-Unis. Et finalement, il décide d'aller un peu rebondir pour faire sa vie à Hawaï. Il débarque à Hawaï, peut-être avec une idée en tête. Est-ce qu'il n'y a pas un petit business à faire ou un truc comme ça? Et il voit quelques Hawaïens qui font du surf à Waikiki. Et il est ébloui. Il trouve ça magnifique. Et il voit que cette pratique est en déperdition. Il rencontre un des meilleurs qui s'appelle Georges Fris. Et qui est donc qui a une planche et il s'initie, et ça on est en février 1907. Et après il apprend qu'il y a un grand écrivain célèbre qui s'appelle Jack London. À cette époque-là, on est très célèbre. Quand on est écrivain célèbre au début du XXe siècle, on est riche et on est célèbre parce que on publie notamment ses livres en feuilleton dans les journaux, dans les quotidiens. Et donc Jack London est très connu, et là il a décidé de faire un voyage à travers le Pacifique à bord de son bateau et de traverser tout le Pacifique jusqu'en Australie, un voyage de 2 ans avec sa femme, un équipage, etc. Et sa première étape est à Hawaï, et Alexander Ford sait que Jack London va arriver, et quand il accoste à Honolulu, au port de Honolulu, eh bien tout de suite il va le voir et il alpague et il lui dit: il faut absolument que vous alliez à la plage, vous voyez ces hommes, etc., etc. Il lui parle de ça, et finalement il avait une stratégie en tête, parce que si tu veux, la classe un peu notable, les blancs qui étaient établis, etc., déniaient complètement les coutumes locales, donc la pirogue, le henalou, le surf, tout ça, la pêche des Hawaïens, ils ne le considéraient pas. Et là il amène Jack London assiste à du surf de George Fris et est ébloui. Et évidemment, le soir, quand il rencontre tous les notables, puisque c'est un écrivain notoire, et bien finalement, au lieu de raconter de sa vie, de ses livres, etc., il raconte ça. Et du coup, il crée un focus sur ça. Et petit à petit, les Blancs, finalement, se mettent à la pirogue. Ça crée une émulation avec les locaux. Il y a des compétitions, des concours, etc. Et le surf redémarre sous une forme... un peu en même temps, bon, il y a la guerre entre-temps, mais sous une forme de d'image exotique, pour transformer petit à petit Hawaï en lieu de villégiature pour les riches Californiens qui commençaient à avoir envie d'aller à Hawaï. Voilà. Parce qu'entre-temps, Hawaï est devenu un protectorat américain. La côte californienne avec Hollywood s'est enrichie. Et donc, il y a des gens qui prennent un paquebot et qui vont passer quelques jours. Et notamment, il y a le baptême du surf avec le surf tandem. Les Hawaïens, du coup, deviennent des beach boys qui gagnent un petit peu d'argent en emmenant les gens ou en pirogue ou en surf, etc. Et sans en avoir l'air, la pratique redémarre. La pratique redémarre. Voilà.
Trop bien. Merci. Et je trouve ça trop intéressant, le truc de... que en fait, les Polynésiens et les gens dont tu parles au début, qui sont vraiment la source du surf, ça me fait penser un peu à des chamans des mers, parce qu'ils étaient hyper ils connaissaient énormément leur environnement, en fait, la mer... Et aujourd'hui, bon, on peut peut-être il y a certains marins qui sont peut-être encore comme ça, mais là, c'était.
Enfin, là, c'est absolument extrême. Je pense que là, si tu veux, c'est maintenant on découvre, avec l'imagerie cérébrale et tout ce qu'on sait du cerveau, que le cerveau est plastique. Donc évidemment, sur des millénaires, tu développes une intelligence. C'est une intelligence qui est en symbiose avec son élément, quoi. Mais cette capacité, un tupaya, et cette capacité à se retrouver là dans l'océan, à se repérer là, même un Polynésien d'aujourd'hui, il l'a pas. C'est évident, il n'est pas élevé à la source. Enfin, je veux dire, un homme là aujourd'hui, tu l'auras pas. Tu l'auras de façon dit mieux, ils vont réapprendre. Ils font des navigations, ils réadaptent. Bon, de toute façon, c'est un peu... plus tu surfes un spot, tu connais les mouvements d'eau. Mais imagine, tu connais ça à l'échelle d'une surface de 66 millions de kilomètres carrés.
Ouais, c'est énorme.
C'est ça qui est fascinant, quoi.
trop cool. Merci. On peut dire que ça s'arrête un peu aux Beach Boys déjà, mais voilà. Moi, j'avais jamais entendu parler de toute cette partie-là. Donc,
c'est la partie essentielle et elle me paraît très importante d'entendre parce que beaucoup de gens vont surfer aujourd'hui, vont surfer pour prendre 2-3 vagues, mais c'est pour finalement retrouver une connexion. Hein. Aujourd'hui, on est dans une impasse écologique, assez angoissante. On est dans une civilisation qui s'est déconnectée de la nature et qui essaye de retrouver un sens. Et comment c'est toute l'impasse dans laquelle on est. Et il est évident qu'il ne s'agit pas de revenir aux civilisations autochtones, mais d'avoir l'humilité déjà de reconnaître qu'il y a eu des savoirs, et ces savoirs et ces civilisations étaient évidemment très très précautionneuses de leur environnement. Mmh. Ce n'est pas elles qui ont saccagé la ressource, parce qu'elles écoutaient la ressource. Et notamment, il y a une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de ces civilisations avaient beaucoup de tabous. Donc beaucoup de tabous, de structuration, ça a été toute l'étude de l'anthropologie. Et donc, par exemple, chez les Hawaïens, c'est une société très hiérarchisée, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais néanmoins, quand tu étudies un petit peu tous les tabous, tout ça, tu t'aperçois qu'au final, c'est aussi une façon qu'à la société, dans son développement, de réguler son rapport à l'environnement. Voilà, et de ne pas abuser de la ressource.
Hop là, me revoilà. J'espère que tu as kiffé voyager avec Gibus dans l'histoire du surf. Moi, je trouve ça toujours super, super intéressant. On passe à question numéro 2 sur donc les enjeux d'une femme à l'eau aujourd'hui. Et je te retrouve à la fin de cette question.
L'enjeu d'une femme surfeuse, c'est le récit. Mmh. C'est tout simplement le récit général, qui est un récit sexiste et patriarcal, mais ce n'est qu'un récit. Mmh. Et qu'à partir du moment où on dépasse ce récit, il n'y a pas de genre, tout simplement. C'est un sport, c'est une activité humaine qui n'est absolument pas prédisposée pour être pour un homme ou pour une femme. Je reviens à mes Polynésiens. Quand Coupe débarque, la pratique, elle est pour tout le monde. Ouais. Les femmes pratiquent autant que les hommes. Mmh. Voilà. Alors, et évidemment, c'est dans sa renaissance à travers le XXe siècle qu'elle est sexiste, puisque de toute façon la société est sexiste et la femme n'a pas d'activité. Mmh. La femme est là pour enfanter, la femme n'existe pas dans les activités. Mmh. Et les activités, alors bien sûr il y a des femmes qui vont mais les activités sportives c'est que les hommes, etc. Et le surf, il a eu le culot d'être un sport extrêmement sexiste. Alors moi quand j'étais petit, j'ai grandi dans le surf, et quand j'avais 10 ans, les filles ne faisaient pas de surf parce qu'on disait que quand elles ramaient, ça leur faisait des larges épaules, et évidemment esthétiquement c'était pas joli parce qu'elles voulaient rester belles. Et l'arrivée du bikini sur la plage, c'est à la fois une émancipation et une libération du corps, mais c'est une injonction.
Ouais,
c'est une injonction évidemment à une certaine beauté et une minceur, etc. Donc là, les filles, ce qu'on appelait les veuves du surf, elles attendaient sur la plage, etc. Et après les plages, les plans on raccourcit, et là de toute façon ça a rendu l'accession au surf qui était plus difficile, parce qu'apprendre sur un shortboard ça se fait pas que sur un longboard. Voilà, et heureusement à arriver dans les années 70 le bodyboard, et à partir de ce moment là la glisse qui s'est développée, hein, les sports de glisse, le windsurf, tout ça, ça a été quand même assez égal, les filles se y allaient, etc. Et le surf est resté très masculin, sans doute avec un récit, une appréhension de la violence de la vague. C'est-à-dire que tout ce qui est violent n'est pas pour la femme, et la vague est violente. Voilà. La vague secoue, la vague...
Et puis donne du pouvoir à l'homme qui...
Je pense qu'il y avait tout cet imaginaire aussi de se faire brasser dans l'eau, de c'est la noyade, c'est tous ces trucs-là, quoi, tu vois. Donc là c'est un autre ici. Parce que dans les années 70, il y a eu quand même... même si la société était encore sexiste et le surf était sexiste, le surf il était d'autant plus quand même, il a inventé un truc qui s'appelle la sex wax. Hein, ça fait du coup 6 surf and sex. Et évidemment, quand tu fais une référence à la plage et au sexe, tu fais référence à un corps sexualisé féminin désirable. Mmh. Tu vois, et c'est quand même le seul sport qui a un objet essentiel pour sa pratique, la paraffine, qui s'appelle sexe. Tu vois. Et la sex wax, ça a été une marque de wax qui a été emblématique jusqu'à la fin des années 90. Mmh. Hein. Mais dans les années 70... les femmes, c'était les seins nus sur la plage. Mmh. Et les seins nus sur la plage, alors là, par contre, c'était vraiment une dimension de retour à la nature. C'est-à-dire, les femmes, qu'elles soient minces, grosses, petites, grandes, petits seins, grands seins, enfin, on s'en fichait. Mmh. Elles étaient là pour être seins nus à la plage. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, il y a eu un retour de bâton, et notamment les féministes le diront, ça s'est arrêté aussi pour elles. Et il y a eu une de nouveau, à la fois dans la société et à la fois dans le surf, une sexualisation du corps féminin. Mmh. C'est le retour de toute la lingerie un peu sexy, etc., et qui marche du feu de Dieu. Et c'est le string pour les femmes. C'est fini les seins nus, mais par contre, c'est des maillots de bain qui montrent les formes, etc. Et dans le monde du surf, c'est les pubs briefs avec donc un corps sans tête, et on montre ou des seins ou un fessier, voilà. Et c'est les compétitions de surf avec les bikini contests, voilà. Et dans le même temps, les filles qui assistent, qui parcourent le monde pour le championnat du monde, eh bien, elles font un championnat de seconde zone, puisqu'on leur laisse toujours les vagues pourries pour faire leur compétition, et elles sont obligées de faire grève. Et là vient de sortir un film qui s'appelle Girl Can't Surf, et où les championnes du monde des années 80 et 90 dénoncent et racontent tout ce qu'elles ont subi. Et ça a été c'est l'horreur. Et là, forcément, il y a eu une cassure à partir des années 2000, avec notamment la marque Roxy, qui a été portée notamment par une femme qui s'appelle Roxy, Marie Choudhary Grand, et qui a créé par exemple le Roxy Jam. Et le Roxy Jam, c'était un événement où les hommes étaient exclus. Mmh. Voilà, tout simplement. Et elle a dit, on prend un champ d'activité et on est entre nous. On ne le partage pas, on est entre nous. Et pourquoi il fallait que les femmes soient entre elles ? Bien, déjà pour qu'elles prennent confiance entre elles, pour pouvoir pratiquer et s'exprimer et être entre elles. Et ça a créé l'élan. Et du coup, aussi, le père qui était un peu surfeur, macho, etc., bah, finalement, il a des filles. Mmh. Son copain, il a des garçons. Mmh. Ah merde, je vais amener mes filles à la danse, et l'autre, il va les amener surfer. Et non, il y a un surf club qui se monte, les filles et les garçons surfent ensemble, et les filles surfent. Et là, bah, c'est la génération des années 2000, et qui explose. Pareil, alors là, un peu plus tard, c'est l'adolescent qui grandit, il a grandi avec sa copine, et lui et elle surfent, donc voilà, ils surfent ensemble. Et maintenant, maintenant, c'est admis. Et les filles, petit à petit, prennent confiance dans l'eau, mais finalement, la timidité qu'elles ont à affronter, elles affrontent deux choses, c'est-à-dire qu'il y a une petite appréhension à se jeter dans la violence de la vague qui éclate, le trou, je vais tomber, je vais me faire ramasser, enfin, tu vois, il y a une petite appréhension, donc là, il faut la dépasser. Et le deuxième récit à casser, c'est quand même le regard d'un mec qui te voit arriver, mais qui, t'es gentil, tu surfes, mais bon, moi aussi, je la veux, la vague. Et il y a quand même dans l'eau une dominante de mecs. Et donc, face à ça, il faut casser les récits. Enfin, on est piégé de nos récits, mais à partir du moment où tu as une forme physique, que ce soit un homme ou un garçon, voilà. Bon, le meilleur exemple, donc 2011, Gareth McNamara à Nazaré, qui prend la vague la plus folle du monde, et c'est un exploit surhumain. Et 8 ans après, c'est une femme qui le fait. Donc il n'y a pas de... voilà.
Et voilà, j'espère que tu as apprécié cette interview de Gibus de Soultrait. N'hésite pas à la partager sur les réseaux sociaux en me taguant évidemment pour que je te reposte. Et puis écoute, comme toutes les semaines, si tu as une petite minute à m'accorder, ça serait vraiment trop cool si tu pouvais aller sur Apple Podcasts et me laisser 5 étoiles et un commentaire écrit. Vraiment, ça m'aide à continuer ce podcast sans qu'il y ait de pub constamment. Donc voilà, je te remercie vraiment. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, mardi 7h du matin.